Chère retraitante, très content de faire votre connaissance ou de vous revoir pour certaines. Alors maintenant, les choses sérieuses vont commencer, donc on commence vraiment la retraite. Je pense que M. l'abbé Troidec vous a donné quelques directives pour essayer de bien faire cette retraite. Nous allons, ce premier sujet de cette première conférence, c'est tout simplement l'objet pour lequel, je pense, vous êtes venus. Pourquoi êtes-vous venus ici? Eh bien, je pense tout simplement parce que vous avez envie, pendant quelques jours, de penser, de prier, de parler, qu'on vous parle un peu plus du bon Dieu. Eh bien, tout simplement, on va parler de Dieu. Certainement, peut-être, certaines d'entre vous, vous dites que, de manière accessoire, ce temps de retraite peut être aussi un temps de repos, de vacances. Ça, je veux dire, pourquoi pas, effectivement, mais je pense que ce n'est pas l'essentiel. Vous n'êtes pas venu faire une cure de sommeil, même si peut-être, effectivement, n'ayant pas d'enfants ou de petits-enfants autour de vous actuellement, vous éprouvez certainement un certain calme. Mais on va essayer de voir quand même le but, pourquoi vous êtes venus ici. Parce que vous savez bien que nous agissons tous pour un but. Quoi que nous fassions, nous agissons pour un but. Le but, la fin, comme on dit, est première dans l'intention. Nous faisons quelque chose dans un but déterminé. Eh bien, vous savez que si nous nous posons toujours la question « Pourquoi ?» Ce que les enfants vous font de temps en temps. « Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est ça ? Pourquoi ça ?» etc. Eh bien, au fur et à mesure des pourquoi cette terre, etc., eh bien, on arrive, qu'on le veuille ou non, à parler de Dieu. Ça, c'est certain. Mais est-ce que Dieu que vous connaissez a-t-il une place importante dans votre vie? Certainement, si on pose la question de manière abrupte, est-ce que vous aimez Dieu? Évidemment, enfin, je pense, vous allez toutes répondre oui, en principe. Mais vous savez aussi que l'on n'aime bien que ce qu'on le connaît. On ne peut pas aimer quelqu'un qui se trouve à 10 000 kilomètres. Même si vous allez dire en théorie « j'aime tous les hommes » parce qu'ils sont les enfants de Dieu, mais concrètement, vous allez certainement moins aimer celui qui habite à 10 000 kilomètres que celui qui vit avec vous dans votre maison, votre mari, vos enfants. C'est évident. Donc on aime bien que ce qu'on l'on connaît. Et justement, on arrive au problème, mais est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Est-ce que l'on connaît Dieu? Eh bien, tout le but de notre vie spirituelle, c'est précisément de chercher Dieu. Comme vous connaissez votre catéchisme, nous avons appris que l'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu, et ainsi obtenir la vie éternelle. Alors nous parlerons d'abord, dans une première partie, eh bien comment Dieu nous est connu. Tout simplement, rapidement, je pense, sans trop m'attarder sur l'existence de Dieu. Et puis évidemment, ensuite, surtout pour notre vie spirituelle, eh bien quelles sont les perfections divines, ce qu'on appelle aussi les attributs divins. Alors, l'existence de Dieu. Comment nous savons que Dieu existe? Comment le savons-nous? Si vous interrogez nos contemporains, ils vont vous dire, bien moi je ne crois pas en Dieu. Ils vont vous dire, ça c'est votre problème. Ça c'est un problème personnel, c'est votre vérité. Vous croyez en Dieu, bon c'est votre affaire, moi je n'y crois pas. Ou alors, ils vont vous dire, à la suite du fameux Gagarine, ce premier astronaute qui a fait le tour de la Terre dans un satellite, enfin une fusée, le russe, là, dans les années 60, il me semble. La première chose qu'il dit en redescendant sur Terre, Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas rencontré. Alors voilà un peu ce que nous disent nos contemporains aujourd'hui. Alors, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que l'existence de Dieu n'est qu'une affaire personnelle? Ou peut-on démontrer Dieu de manière objective? Eh bien, qu'est-ce que nous dit l'Église? L'Église nous dit que Dieu existe, nous savons que Dieu existe par la révélation et par la raison, par notre intelligence. Je vais vous citer le Concile Vatican Ier. Donc, dans sa constitution dogmatique, qui s'appelle Dei Filius, donc du 14 avril 1870, dans son chapitre 2, aborde justement ce problème. Voilà ce qu'il dit, ce concile. « La même Sainte Église, notre Mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toutes choses, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. » Il cite saint Paul. « Depuis la création du monde, ses perfections invisibles se laissent voir à l'intelligence par ses œuvres. Cependant, il a plu à sa sagesse et à sa bonté de se révéler lui-même au genre humain et de révéler les décrets éternels de sa volonté par une autre voie, surnaturelle celle-là. » Là aussi, épître aux Hébreux, « Dieu a parlé jadis à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. En ces jours les derniers, il nous a parlé par son Fils. » Donc, c'est bien grâce à cette révélation divine que tous les hommes doivent de pouvoir, dans la condition présente du genre humain, connaître facilement, avec une ferme certitude et sans aucun mélange d'erreur, ce qui, dans les choses divines, n'est pas de soi inaccessible à la raison. Donc, vous voyez, le Concile nous dit bien, on peut connaître Dieu, bien sûr, par la révélation, Dieu s'est révélé, mais aussi par notre intelligence. Et un autre texte, un peu plus récent, c'est celui de Pie XII. Dans son encyclique Humanus Generis du 12 août 1950. Bien que la raison humaine, en effet, à parler simplement, puisse vraiment par ses forces et sa lumière naturelle arriver à une connaissance vraie et certaine d'un Dieu personnel, protégeant et gouvernant le monde par sa providence, ainsi que d'une loi naturelle mise par le Créateur dans nos âmes, il y a cependant bien des obstacles, empêchant cette même raison d'user efficacement et avec fruit de son pouvoir naturel. Car les vérités qui concernent Dieu et les hommes dépassent absolument l'ordre des choses sensibles. Et lorsqu'elles doivent se traduire en action et informer la vie, elles demandent qu'on se donne et qu'on se renonce. L'esprit humain, pour acquérir de semblables vérités, souffre difficultés de la part des sens et de l'imagination, ainsi que des mauvais désirs nés du péché originel. De là vient qu'en de telles matières, les hommes se persuadent facilement de la fausseté, ou du moins de l'incertitude des choses dont ils ne voudraient pas qu'elles soient vraies. C'est pourquoi il faut dire que la révélation divine est moralement nécessaire pour que les vérités religieuses et morales, qui de soi ne sont pas inaccessibles à la raison, puisse être, dans l'état actuel du genre humain, connu de tous sans difficulté, avec une ferme certitude et sans mélange d'erreurs. Donc, là aussi, le pape dit bien, en soi, la raison humaine peut connaître, mais évidemment, Dieu va nous y aider par la révélation. Alors, rapidement, la révélation, c'est-à-dire que Dieu qui nous parle, eh bien, il nous a appris lui-même son existence, évidemment, hein, dans les révélations qu'il a faites aux hommes depuis Adam. Alors là, vous suffit d'ouvrir la Sainte Écriture et vous voyez de nombreuses fois où Dieu a parlé aux hommes. Ne serait-ce, par exemple, que dans l'apparition de Dieu à Moïse, dans le buisson ardent. Si vous avez une Bible, vous trouvez ça dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, versets 10 et suivants. Ou même un peu avant d'ailleurs, verset 6. Dieu dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Vous savez, Moïse qui garde son troupeau dans le désert, le troupeau de son beau-père, et puis un jour il voit un buisson qui prend feu. Bon, évidemment, en soi, c'est pas, ça, n'est pas inhabituel dans le désert quand il fait chaud. Mais la particularité, c'est que le buisson, malgré le fait qu'il brûle, il ne se consume pas. Alors évidemment, là, ça devient un peu plus intriguant. Donc Moïse s'approche, et c'est là où Dieu lui dit, attention, n'approche pas, retire tes chaussures, etc., car je suis le Dieu, etc. Et ensuite, il va l'envoyer délivrer, lui donner sa mission, d'aller délivrer son peuple. Et Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je serai avec toi, et voici le signe que tu montreras que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, mais voici que je vais trouver les Israélites, et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il dit, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Donc Dieu, ça on en parlera aussi un peu plus tard, révèle son nom. Vous voyez, bon, vous avez la Sainte Écriture est remplie de ces révélations de Dieu qui apprend son existence aux hommes. Ainsi donc, la foi que nous avons, effectivement, nous fait connaître l'existence de Dieu. Donc c'est vrai que l'existence de Dieu aussi est un problème de foi. Ça c'est clair. Nous avons eu la chance d'être, la grâce d'être baptisés. Donc, par le baptême, par la grâce de Dieu que nous avons reçu cette foi qui nous fait croire, effectivement, à l'existence de Dieu. Donc, ça, c'est l'existence de Dieu, donc, révélée par Dieu. Mais l'autre question qui arrive, justement, mais ceux qui n'ont pas la foi, ceux, par exemple, qui n'ont pas été baptisés, est-ce qu'ils peuvent connaître l'existence de Dieu ? Ou faut-il vraiment avoir la foi pour la connaître? Eh bien, saint Paul en parle déjà dans son épître aux Romains, chapitre 1er, versets 18 et suivants. Voilà ce que dit saint Paul. La colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu, en effet, le leur a manifesté. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres. Son éternelle puissance et sa divinité en sorte qu'ils sont inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou action de grâce, mais ils ont perdu le sens dans leur raisonnement et leur cœur inintelligent s'est enténébré. Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible contre une représentation, simple image d'hommes corruptibles, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. Donc ça, il parle des idoles, évidemment. Ensuite, Dieu les a punis en les livrant à la convoitise de leur cœur, hein, où l'impureté les avilisse eux-mêmes, avilissent leur propre corps. Donc, si vous voulez, Dieu fait le reproche précisément aux païens de ne pas avoir connu l'existence de Dieu d'après les œuvres de Dieu. Et ça, vous l'avez entendu, ce n'est pas moi qui le dis, saint Paul dit, ils sont inexcusables. Oui, c'est quand même fort. Donc, ce qui veut dire que dans notre monde retourné au paganisme, si je puis dire, eh bien, de même, les gens aujourd'hui sont inexcusables de ne pas connaître l'existence de Dieu. Ainsi, il est de foi que nous pouvons connaître l'existence de Dieu par la raison, à la vue des choses créées. C'est très simple. Quand vous vous promenez dans un bois et que dans la boue, ou fraîche ou autre, ou sèche, vous voyez des traces d'un chien ou d'un cheval, vous allez vous dire, un chien est passé par là, un cheval est passé par là. Donc, le chien existe, le cheval existe. Ah oui, c'est très simple. Si vous voyez, alors si vous êtes dans un autre pays, pas dans nos pays, mais peut-être plus en Afrique ou je ne sais pas où, vous voyez un trace de lion, bah, tout de suite, les indigènes voyant le trace du lion, ils vont se dire, il y a un lion qui est là. Et en fonction de la fraîcheur de la trace, ils vont vous dire, attention, le lion est passé il y a 5 minutes, il y a 10 minutes, il y a une heure, donc faisant attention, il est là. À partir des traces, on remonte à l'existence de la bête. Eh bien, C'est la même chose. À partir des traces de la création, nous remontons au Créateur. Voilà l'argument principal pour connaître Dieu par la raison, par notre intelligence. Vous avez bien sûr, saint Thomas d'Aquin, le grand théologien, a développé des preuves de l'existence de Dieu, des preuves philosophiques, qu'on appelle les preuves métaphysiques, ce qu'on appelle aussi les cinq voies de saint Thomas. C'est que saint Thomas a donné cinq preuves, si vous voulez, de l'existence de Dieu par la raison, par notre intelligence. Bon, je les résume très rapidement, car je ne veux pas vous faire un cours de philosophie, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le lire. C'est vraiment très intéressant. Par exemple, il dit, première fois, il dit que Dieu, disons, il parle de la constatation que dans le monde, dans ce qu'on voit, il y a du mouvement, tout est en mouvement. Si vous voulez. Eh bien, il dit, pour que quelque chose soit mu, pour que quelque chose se meuve, il faut qu'elle ait été mue par quelqu'un d'autre, par un autre moteur. Ce moteur lui-même, qui est mu par un autre, etc. Donc, il dit, toute la source du mouvement, il faut forcément remonter, à un moment, à un moteur immobile. C'est-à-dire que quelqu'un qui va donner une impulsion, mais qui lui-même est immobile, qui ne tient pas une impulsion d'un autre, parce qu'il faudrait encore remonter à l'infini, ce qui voudrait dire que ça serait absurde. Donc, il dit, Dieu est le premier moteur immobile, source de tout mouvement. Donc, voilà une preuve très résumée, évidemment. Ça veut dire que je ne me puis ne me mouvoir qu'en lui. Dieu est le principe et le but de toutes mes actions. Bien. Une autre preuve, il va vous dire, Dieu est la cause première de tout être. En effet, un être vient à l'existence par un autre, etc. C'est le problème de la poule et de l'œuf. Qu'est-ce qui arrive en premier, la poule ou l'œuf? Eh bien, c'est, si vous voulez, Dieu est la cause, précisément, il a créé, si vous voulez, ce mouvement par les causes, si vous voulez, qu'un être soit la cause d'un autre, etc., soit l'effet d'un autre. Et en remontant de cause à effet, pareil, il a fallu que ce mouvement, si vous voulez, de la cause et de l'effet ait été causé par un être qui soit lui-même la cause première et ne soit pas causé par un autre. Bon, c'est ce que saint Thomas appelle le Dieu cause première. Bon, vous voyez, une autre fois. Bon, encore une fois, c'est peut-être un peu difficile, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous dire juste quels sont les points que saint Thomas aborde. Troisième preuve, il va dire que Dieu est l'être nécessaire. Si vous voulez, dans la création, nous voyons ce qu'on appelle des êtres contingents, c'est-à-dire qui peuvent ne pas être. Nous, il y a X années, nous n'étions pas, donc nous ne sommes pas nécessaires. Nous sommes des êtres contingents. C'est-à-dire qu'effectivement, nous ne sommes absolument pas nécessaires à la vie du monde. Ça, c'est clair. Eh bien, c'est pareil. Saint Thomas remonte, eh bien, il va falloir forcément remonter à un être qui ne peut pas ne pas être, un être nécessaire, qui a donné l'existence aux êtres contingents. Donc, c'est Dieu, l'être nécessaire. Ensuite, quatrième voie, il va parler de Dieu, l'être parfait. Pareil, on va voir dans le monde des imperfections. Et ces imperfections vont nous obliger à remonter à un être qui soit parfait, qui est donné précisément les perfections qu'on voit dans toute la nature. Hein, et cet être qui va être parfait. Voilà la quatrième. Et la cinquième, qui est peut-être plus facile à comprendre, c'est une preuve tirée de l'ordre du monde. Alors celle-là, effectivement, on va vous dire, tout ordre est l'œuvre d'une cause intelligente. Le fait que vous voyez les choses ordonnées, c'est l'œuvre d'une cause intelligente. Bon, c'est très facile à comprendre. Nous-mêmes, enfants, ou vous-même, combien de fois avez-vous entendu ou avez-vous dit à vos enfants, va ranger ta chambre? Bon, quand vous dites ça à vos enfants, va ranger ta chambre, vous supposez quoi? Qu'il est capable de le faire. C'est-à-dire qu'il est capable de mettre ses affaires à tel endroit, ses jouets à tel autre, ses habits avec les habits, etc. Donc, il y a une intelligence. Donc, il va ranger sa chambre. Vous n'allez pas dire à votre chien, va ranger ta niche. Ou à votre chat, va ranger ton coussin, ou je ne sais pas quoi. absurde. Parce que le chien, d'abord, il ne va pas vous comprendre. Et puis, il va vous lécher. Oui, très gentil. Il me parle, c'est gentil, etc. Mais le chien ne va pas ranger sa niche. Mets ta gamelle là, mets ton coussin là, mets ton os là. Enlève les toiles d'araignée, que ça soit propre. Non, parce qu'il n'est pas intelligent. Vous voyez, tout ordre est l'œuvre d'une cause intelligente. Or, il y a dans le monde un ordre admirable. Alors là, ça ensuite, chacun est attiré par ce qu'il veut. Mais regardez l'ordre du monde. Alors, est-ce que vous êtes attiré par les fleurs? Regardez la façon dont poussent les fleurs. Regardez la façon dont la beauté, la variété des fleurs. Comment ça se passe? Si c'est plutôt les oiseaux, regardez aussi la manière, dont une hirondelle fait son nid. Regardez avec quel ordre elle le fait. Donc, il existe, on ne peut pas le nier, un ordre admirable dans le monde. Ou alors, si vous êtes plutôt la tête dans les étoiles, eh bien, regardez ce monde merveilleux des étoiles. Il y a un ordre admirable. Imaginez qu'il n'y ait pas d'ordre là-dedans. Toutes les étoiles vont tomber les unes sur les autres. Ça sera la fin. Non, il y a un ordre admirable. Conclusion, donc, l'ordre du monde suppose une cause intelligente, qui est Dieu. Donc, vous voyez, cette preuve de l'existence de Dieu tirée de l'ordre du monde, je pense, est facile à comprendre et facile ensuite à éventuellement parler à d'autres. Même Voltaire, qui n'est pas un père de l'Église, lui-même disait « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge marche et n'est point d'horloger. » Lui, Voltaire, avait comparé le monde à une horloge. Ben oui, dans une horloge, il y a un ordre admirable. Imaginez que le rouage de votre monde, bon maintenant, la mienne elle a des aiguilles, donc ça suppose des rouages. S'il n'y a pas d'ordre, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, elle prend du retard, elle avance, je ne sais pas quoi, elle s'arrête. Lui, Voltaire avait pris cet exemple. Et il dit, s'il y a une horloge, il y a un horloger, tout simplement. Enfin, si tout cela vous paraît compliqué, je pense que l'existence de Dieu, c'est très facile, si vous aimez la montagne, et bien marcher dans la montagne, grimper sur un sommet. Vous voyez, c'est cette majesté des montagnes, c'est pas venu comme ça tout seul. Ou alors au contraire, si vous êtes plutôt attiré par la mer, eh bien, promenez-vous sur une plage, et quand on voit cette beauté de la mer, et puis ce point où est-ce que la mer et le ciel se rejoignent, ça donne tout de suite une impression d'infini, si vous voulez. Là aussi, c'est un paysage qui nous fait monter vers Dieu, tout simplement. Donc, si vous voulez, nous avons bien sûr la foi, donc nous croyons parce que Dieu nous l'a dit, mais aussi par notre raison, nous pouvons montrer l'existence de Dieu. Donc, ne nous laissons pas arrêter par les sophismes d'aujourd'hui. Et en réalité, comme disait le pape Pie XII, si les gens se disent athées, ce n'est pas un problème d'intelligence, ce n'est pas un problème de foi, c'est un problème moral. Parce qu'ils savent très bien que s'ils commencent à dire, croire que Dieu existe, alors ils devront changer quelque chose dans leur vie. Le problème, il est là. Il n'est pas intellectuel. Le véritable athée qui dit Dieu n'existe pas, ce sont des mots. Non. S'il raisonne, s'il se met avec son intelligence à travailler, on ne peut qu'arriver à l'existence de Dieu. Le problème, il est d'ordre moral. C'est tout. C'est que, ensuite, oui, parce que si Dieu existe, alors là, je ne peux plus faire n'importe quoi. Voilà pour l'existence de Dieu. Arrivons maintenant, évidemment, à ses perfections. Donc, après avoir établi que Dieu existe, il nous faut dire maintenant, évidemment, ce qu'il est. Mais comment? Comment dire ce qu'est Dieu? Parce qu'on peut arriver à prouver son existence, mais ensuite, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-il? Comment le connaître? Vous avez dans le dernier ouvrage de Mgr Lefebvre, Marcel Lefebvre, sur ce qu'il appelle itinéraire spirituel, un petit passage là-dessus, justement sur ces perfections de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Notre connaissance de Dieu est bien imparfaite ici-bas, et elle le sera encore au ciel, car il faudrait être Dieu pour le connaître dans toute sa perfection et son être. C'est le cas des trois personnes divines. Une approche d'une meilleure connaissance de Dieu consiste à nier de lui toutes les limites des créatures, qui nous servent d'ailleurs à prouver l'existence de Dieu. Ainsi donc, de Dieu, nous nions toute imperfection. Donc, Dieu est parfait. Nous nions toute limite. Il est infini. Nous nions toute limite dans l'espace. Il est partout, omniprésent. Nous nions toute limite dans le temps. Il est éternel. Nous nions toute mutation. Il est immuable. Donc voilà effectivement comment nous allons essayer de connaître Dieu, en niant les limites de la créature. Et là aussi un autre père, le père Sineux. Voilà ce qu'il dit. Dieu existe. Cette première vérité ne fait qu'enflammer notre désir de connaître cet être suprême duquel tout dépend et dont nous soupçonnons l'éblouissante beauté. Saint Thomas, enfant, surpris dans une sorte d'extase en face de la nature ravissante, il regardait la nature, posait tout à coup à son maître la question, qu'est-ce que Dieu ? Est-ce que votre enfant vous a demandé ça ? Imaginez un de vos enfants regardant un beau paysage, se promenant avec vous, il rentre en extase. Et puis il vous dit, « Maman, qu'est-ce que Dieu ?» Bon chéri, c'est bien. Dieu lui-même répond, « Je suis celui qui suis. Celui qui est, c'est là mon nom pour l'éternité, c'est là mon souvenir de génération en génération. » La raison humaine, en démontrant l'existence de Dieu, découvre en lui l'être subsistant par lui-même. Premier moteur immobile, cause première que rien ne produit ni ne modifie, être nécessaire qui ne peut pas ne pas exister, être parfait qui ne connaît aucune limitation, ordonnateur suprême qui ne dépend d'aucun autre, Dieu est au-dessus de tout être. Il ne rentre dans aucune catégorie, il n'appartient à aucun genre. Il constitue un être absolument à part, non seulement par sa nature supérieure, mais encore par sa manière d'exister et de subsister, manière unique et transcendante. Donc, quelle prérogative implique cette notion d'être subsistant par lui-même ? Tout, évidemment, se résume et s'identifie dans la perfection infinie. Mais cette perfection, trop vaste pour nos intelligences, nous essayons du moins d'en considérer séparément quelques aspects, sans vouloir en briser l'unité. Comme l'unique lumière passant par le prisme détaille les couleurs qui la font ce qu'elle est, l'indivisible perfection divine passant par l'intelligence humaine se prête à une étonne morcelée et nous livre un à un ce qu'on appelle les attributs de Dieu. Les uns le considèrent dans son être, les autres dans son action. Voilà, c'est ce que nous sommes obligés de faire, si vous voulez. Comme la lumière qui passe dans un cristal et qui va vous donner différentes couleurs, qui va vous faire montrer la beauté de ce cristal, eh bien, vis-à-vis de Dieu, notre intelligence va faire pareil. On va essayer de voir les différentes lumières qui nous arrivent de Dieu pour nous dire, ben voilà, Dieu est comme ça. Et évidemment, Dieu est simple. Alors essayons tout simplement d'aborder quelques-unes de ces perfections. Mais juste avant, revenons sur le principe de tous les attributs de Dieu, comme l'a dit le Père Sineux, c'est l'être lui-même. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'acéité, un nom un peu barbare, mais qui vient du latin L'apostrophe, A-S-E-I-T-E, ce qui est cette propriété qui appartient à Dieu seul, d'exister par lui-même. Comme on dit en latin, ens, qui est de esse, ens, a-c. Dieu existe par lui-même, et non par un autre, ab alio. Il existe par lui-même et non pas par un autre. Ça veut dire que Dieu possède la plénitude de l'être. Il existe. Sa seule propriété, c'est le fait d'exister, tout simplement. Alors que nous, les créatures, nous tenons précisément notre existence de Dieu. Et donc, nous sommes des êtres imparfaits. Nous ne nous sommes pas donné à nous-mêmes notre existence, si vous voulez. Alors que Dieu, lui-même, c'est l'existence lui-même. Il existe par lui-même. Il n'a pas reçu son existence d'un autre. Alors que nous, nous l'avons reçu de quelqu'un d'autre. C'est toute la différence. C'est ce qu'on appelle justement cette acéité. Vous avez entendu tout à l'heure la réponse de Dieu à Moïse. Il a donné son nom. Je suis celui qui suis. j'existe. Et notre Seigneur va faire aussi un peu la même réponse aux Juifs. Et là aussi, Monseigneur Lefebvre va le commenter. Les Juifs vont dire à notre Seigneur, « Comment, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Ça, c'est dans Saint Jean, chapitre 8, versets 5 à 9. Vous voyez, notre Seigneur dit, « avant qu'Abraham fût, je suis. » Il reprend le nom divin, « je suis », tout simplement. Et d'ailleurs, après, ils vont ramasser des pierres pour le lapider. Bon, notre Seigneur, son heure n'étant pas venue, va disparaître dans la foule. Mais les Juifs, là, ils ont bien compris. Ils ont compris que Jésus se disait Dieu. Parce que ça fait, là, c'est clair, ça fait référence à ce que Dieu a dit à Moïse. Commentaire de Mgr Lefebvre, on n'admirera jamais assez ces réponses lumineuses, qui correspondent d'ailleurs aux conclusions de notre raison. Dieu est, il est ens asse, l'être par lui-même. Tous les autres êtres sont ab alio, n'ont pas leur raison d'être par eux-mêmes. Ces affirmations simples sont une source de méditation et de sanctification inépuisable. Que ce soit le regard sur Dieu qui s'épuise dans l'infini, que ce soit la constatation des rapports de la créature au Créateur, ou la vue du néant de la créature, nous sommes en face de ce qu'il y a de plus vrai, de plus profond et de plus mystérieux en Dieu et en nous. C'est vrai. Se dire « mon être n'est qu'un être d'emprunt ». Je suis incapable de subsister par moi-même. Si je ne l'avais pas reçu par quelqu'un d'autre, je n'existerais pas. Donc je dois reconnaître mon absolue dépendance de Dieu. Je dois reconnaître mon absolue dépendance de Dieu, de l'être divin. Dieu, en plus, non seulement nous a donné l'être, mais nous maintient dans l'être. Et ça, ça rentre, ça donne des perspectives infinies. Vous avez aussi dans un petit livre, je ne sais pas s'il est à votre disposition, mais enfin vous pouvez lire, très, très beau petit livre, on peut méditer, « Amour et silence » par un chartreux. Là aussi, il fait un beau commentaire. « Il ne suffit pas que Dieu gouverne la créature et qu'il dirige son activité. Étant le principe unique et souverain, de la totalité des êtres, il faut qu'ils les soutiennent dans l'existence, qu'ils continuent à chaque instant de leur donner tout ce qu'ils sont. Si l'agir divin cessait une seconde, l'univers et nous-mêmes, nous nous évanouirions comme un rêve. » Vous savez, quand les enfants, bah oui, quand on dit un peu familièrement, si Dieu arrêtait de penser à nous, ça veut dire ça, bah oui, on ne serait même plus un tas de cendres, il n'y aurait plus rien, on s'évanouirait comme un rêve. Lorsqu'on a compris la nécessité de l'acte divin, conservant ainsi les choses après les avoir créées, on trouve au plus petit objet une grandeur singulière, puisque c'est le Tout-Puissant et lui seul qui, présent dans cet être infime, le maintient hors du néant. L'ombre est la plus faible des réalités, semble-t-il. Notre ombre n'est rien en comparaison de nous-mêmes, mais en comparaison de Dieu, présent en nous, nous avons moins de réalité encore. Auprès de la réalité divine, nous ne sommes pas même des ombres. Et Dieu le disait à Sainte Catherine de Sienne aussi. Il disait, « Sais-tu, ma fille, ce que tu es, ce que je suis, tu es celle qui n'est pas, et moi, je suis celui qui est. » Tout simplement, oui. Donc ça, c'est vraiment pour nous une leçon d'humilité, vraiment se remettre dans cet esprit de dépendance de Dieu. Je dois tout à Dieu. Je dois tout à Dieu. Donc vraiment, leçon d'humilité et d'amour. Alors quand on peut être tenté justement d'orgueil, de vanité, je ne sais pas, par exemple, le matin devant son miroir, si on a des tentations de vanité qui surviennent, eh bien disons-nous, je ne suis rien. Je suis qu'un être ab alio. J'ai reçu mon existence de Dieu. Je n'existe pas par moi-même. Donc ça, vraiment, on se remet devant la réalité. Et c'est là où après, quand on repense un petit peu à nos tentations d'orgueil, de vanité, c'est quelle futilité, quoi, quelle futilité. Quand on remédite devant ces grandes vérités, que Dieu est l'être par lui-même et moi j'ai reçu mon existence de Dieu, on se dit, mais on est vraiment stupide, stupide de s'admirer dans un miroir, quoi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je ne me suis même pas donné à moi-même ma relative beauté. Non, non, je l'ai reçue. Non, je tiens tout de Dieu. Alors, bien, ça, déjà, si toute votre retraite, vous pensez à méditer uniquement cela, ben, je pense que vous n'aurez pas perdu votre temps, hein, tout simplement. Maintenant, quelques attributs divins relatifs à l'être de Dieu même. Bon, j'en énumère que quelques-uns, bien sûr. La simplicité. Dieu est une substance tout à fait simple. Comme on dit, pur esprit. C'est-à-dire qu'en Dieu n'existe aucune composition. Nous, nous sommes composés d'une âme et d'un corps. En Dieu, non. Pas la moindre composition. Et d'ailleurs, c'est notre Seigneur qui lui dit lui-même à la Samaritaine, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il n'y a pas de composition en Dieu. Donc sachons, nous aussi, si on admire cette simplicité en Dieu, eh bien sachons pratiquer aussi cette simplicité, cette pureté d'intention, hein, qui nous fait tendre à Dieu. Plus on est compliqué, moins on est proche de Dieu. Et c'est beau à voir, quand vous lisez les vies des saints, donc qui s'approchent de Dieu, qui sont de plus en plus unis à Dieu au fur et à mesure qu'ils s'approchent de leur mort, eh bien, vous remarquerez, ils ont toujours une vue très simple. Nous, souvent, notre religion, on a l'impression que c'est très compliqué. On a l'impression de, je sais pas quoi, il y a une foule de détails, il y aurait, je sais pas, une foule de commandements, il y a... On a l'impression de se perdre devant une montagne de choses à faire et on n'arrive pas. Est-ce que j'ai le droit de faire ça, pas le droit de faire ça, etc. Les saints n'ont jamais été comme ça. Bon, ils ont peut-être commencé comme ça, mais au fur et à mesure qu'ils se sont unis à Dieu, ils se sont simplifiés. C'est-à-dire qu'on voit cette existence de Dieu, donc qui se transforme bien sûr ensuite en amour de Dieu, et bien ensuite tout paraît très simple. Tout. Bien sûr, celui qui m'aime, c'est celui qui observe mes commandements, mais après, tout paraît très simple. Et plus on s'approche de Dieu, plus on se simplifie. Donc, justement parce que Dieu est simple, tout simplement. Donc, essayons de pratiquer justement cette simplicité, hein, qui nous fait tendre directement à Dieu, sans aucun retour désordonné sur soi-même, sur nous-mêmes. Donc, on peut méditer aussi sur cette simplicité de Dieu. Sur cette immutabilité aussi, Dieu est immuable, c'est-à-dire que Dieu ne change pas, Dieu ne peut pas changer. Il le dit dans le prophète Malachie, au chapitre 3, verset 6, « Je suis le Seigneur et je ne change pas. » Dieu ne peut pas changer. C'est évident, parce que changer, c'est acquérir ou perdre quelque chose. Quand on change, c'est qu'on acquiert quelque chose qu'on n'avait pas, ou alors on perd quelque chose qu'on avait. Donc, ça veut dire que Dieu ne serait pas infini. S'il perdait quelque chose ou s'il acquérait quelque chose d'autre, ça veut dire qu'il n'est pas infini, donc ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Donc, ça veut dire, conclusion, Dieu est sujet à aucun changement. Et c'est, je pense, important aussi, comme conclusion pour nous, on peut dire que l'immutabilité divine nous aide précisément à pratiquer au milieu un petit peu de toutes les vicissitudes humaines, eh bien ce calme nécessaire à l'union divine. Nous sommes pris par multiples choses. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire son devoir d'État, ça c'est clair. Mais il ne faut pas se laisser, j'allais dire, perturber par ces différentes choses de notre devoir d'État. Nous devons aussi garder cette stabilité de notre vie spirituelle, malgré les épreuves. Et qu'est-ce qui peut nous y aider, effectivement, c'est en pensant à cette immutabilité divine. Dieu ne change pas. Dieu ne peut pas changer. Et donc, ça permet de garder ce calme. Et là aussi, reprenez la vie des saints ou des personnes peut-être qui sont bien avancées avec l'union bon Dieu, bien, on est toujours surpris de leur calme. Ils peuvent leur arriver les pires malheurs, les pires souffrances, on les voit toujours calmes. Toujours calmes. Mais là aussi, plus on est uni au bon Dieu, plus, je pense, on participe à cette immutabilité divine. Donc plus on acquiert, là aussi, cette paix. Ensuite, en Dieu, nous pouvons bien sûr méditer sur son éternité, un autre attribut. Nous trouvons ça dans, bien sûr, l'Apocalypse. « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui sera. Bon, » c'est ce que dit le prêtre lors de la vigile pascale, la bénédiction du cierge pascal, en gravant la croix et puis l'alpha, l'oméga et les années. C'est ce que dit le prêtre. « Je suis alpha, oméga, commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui sera. » Bon, l'éternité divine découle de son immutabilité. Pourquoi ? Parce que ce qui est immuable, donc il n'y a pas de changement, bien, n'a pas de succession. Il n'y a pas de succession. Un changement, vous étiez comme ça, maintenant vous êtes comme ça, etc. Donc vous avez une succession. Si vous êtes immuable, il n'y a pas de succession. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement et pas de fin. Donc ça veut dire qu'il est éternel. Qu'est-ce que c'est que le temps ? Le temps, il est composé de mouvements successifs, de moments successifs. Succession des mouvements, des moments, c'est le temps. Bien, en Dieu, il n'y a pas de temps. Parce que précisément, il n'y a pas de succession, il n'y a pas de commencement, pas de fin. Si vous voulez, Dieu possède toute sa vie dans un seul instant présent, dans un présent permanent. Je suis. Non. Alors là aussi, c'est bon, souvent on est pris de vertige quand on commence à méditer sur l'éternité. Allez, comment ça peut se faire ? Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, il y a uniquement l'instant présent, mais comment ça peut se faire ? En réalité, c'est presque plus facile de méditer sur l'éternité que de méditer sur le temps. Parce que le temps est compliqué, parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est que le passé ? Qu'est-ce que c'est que le futur ? Qu'est-ce que c'est que le futur ? Oui, mais quand il arrive, c'est déjà du temps passé, il est présent. Donc, essayer de comprendre le temps, c'est presque plus difficile que de comprendre l'éternité, que de comprendre l'unique instant présent, je suis. Il n'y a pas de mouvement, donc je suis. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas vie, attention, hein, en Dieu, mais ce n'est pas vrai, on en parlera à un autre moment. Mais c'est plus facile. Dieu, effectivement, a cet unique instant de l'éternité. Et là aussi, on peut méditer. L'éternité va nous détacher bien de tout ce qui passe, précisément. On est souvent pris par mille détails, mais ça passe tout ça. Donc si on médite sur l'éternité, eh bien, on va se rappeler que tout ce qui n'est pas éternel n'est rien. Et qu'est-ce qui est éternel ? Qu'est-ce qui est immortel ? Eh bien, notre âme. Donc on va se dire, bah oui, ça c'est vrai, notre âme c'est quelque chose d'important, parce qu'elle ne mourra pas. Bon, Dieu lui a donné l'existence, mais une fois qu'elle a son existence, elle ne mourra pas. Notre corps mourra, oui, certes, mais notre âme, elle, est immortelle. Donc elle ne mourra pas. Donc elle est importante. Mais tout ce qui passe, toutes les futilités de ce monde, c'est rien, c'est rien. Vous voyez, si on médite sur l'éternité aussi, sur l'éternité de Dieu, eh bien, on a une autre vision du monde. C'est clair. Et c'est ainsi, vous connaissez l'épisode de la conversion de Saint François Xavier. Saint Ignace a converti Saint François Xavier, justement, par cela, par l'éternité. Donc, Saint Ignace, enfin, il était, bon, après sa conversion, est monté à Paris faire des études. Il s'est trouvé logé dans la même chambre d'étudiants que François Xavier. Donc ils étaient à Paris, ils étudiaient à l'université, et ils étaient donc dans la même chambre d'étudiants. Bon, et bien sûr, Saint Ignace, jeune converti, etc., bah, commence à parler avec François Xavier. Il parle, etc. Bah oui, quels sont les projets, quels sont tes projets, etc. Puis alors François Xavier, noble, espagnol, etc. Oui, voilà, je vais passer mon diplôme. Ensuite, je vais retourner dans ma famille. Enfin, j'ai grands projets, etc., etc. Et puis, Saint Ignace lui dit, ben oui, mais attention, il n'y a pas que ça. Il y a quand même ton âme. Il faut quand même penser à ton âme, etc. Puis rien, ça ne bouge pas. Alors, Saint Ignace a décidé d'une chose. OK, d'accord. Eh bien, il dit, mais maintenant, tout ce que tu viens de me dire, là. Qu'est-ce que c'est ? Quid ad aeternitatem ? Qu'est-ce que c'est que cela par rapport à l'éternité ? Et puis François Xavier continuait à reparler de ses projets. Il dit, mais ça, c'est quoi par rapport à l'éternité ? C'est quoi ça ? Et à force, eh bien, François Xavier a commencé à réfléchir. Il dit, oui, ça, c'est, qu'est-ce que c'est vrai. Et par cette réflexion, eh bien, il s'est converti, là aussi. Et Saint Ignace, donc, avec lui, ils ont donc fondé la Compagnie de Jésus. Vous voyez, là aussi, la méditation sur l'éternité peut évidemment nous aider à vraiment se remettre devant l'unique nécessaire. Une autre perfection divine que vous pouvez voir aussi, c'est ce qu'on appelle l'immensité de Dieu. Là aussi, ça peut être un bon sujet de méditation. Ça veut dire que Dieu est partout. Dieu est en tout lieu. Il n'est pas limité par un lieu. Comme on dit un peu en philosophie, il est substantiellement en toute chose. Et ça aussi, saint Paul le disait aux Athéniens, vous avez ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28, « C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Donc, ça veut dire que Dieu est substantiellement en toute chose. Ça se comprend, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui nous donne, qui nous maintient dans l'existence, donc dans ce sens qui nous maintient dans l'existence, donc on peut dire qu'il est effectivement substantiellement en toute chose. Ce qui ne veut pas dire, il ne faut pas tomber dans le panthéisme, ce qui ne veut pas dire que toute chose est Dieu, attention. Non, mais ça veut dire qu'effectivement, Dieu donne l'être à toute chose. Donc, en ce sens, on peut dire qu'il est substantiellement en toute chose. Eh bien, c'est le fondement de l'exercice de la présence de Dieu. Se dire, effectivement, Dieu est présent partout. Donc, Dieu me voit. Et vous avez un très beau psaume, le psaume 138, qui parle de cette vérité que nous récitons, nous, dans le bréviaire, aux vêpres du vendredi. Seigneur, vous me sondez, vous me connaissez. Que je me lève ou je m'assois, vous le savez. Vous percez de loin mes pensées. Que je marche ou je me couche, vous le savez. Mes chemins vous sont tous familiers. La parole n'est pas encore sur ma langue, et voici, Seigneur, vous la savez tout entière. Où irai-je loin de votre esprit? Où fuirai-je loin de votre face? Si j'escalade les cieux, vous êtes là. Si je descends au séjour des morts, vous êtes là. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge au plus loin de la mer. Même là, votre main me conduit, votre droite me saisit. Que je dirais que me presse la ténèbre, que la nuit soit pour moi une ceinture. Même la ténèbre n'est point ténèbre devant vous, et la nuit illumine comme le jour. Un très beau psaume. Effectivement, Dieu est partout. On ne peut pas échapper à Dieu. On ne peut pas échapper. Il y a aussi, toujours dans cet auteur spirituel, ce Chartreux, dans Amour et silence, commente un petit peu. Dieu est partout. Cette vérité si simple, nous l'oublions trop. Elle pourrait cependant, si nous y pensions davantage, donner une orientation nouvelle à notre vie. Nous nous fatiguons quelquefois l'imagination pour nous représenter un Dieu lointain, et notre prière en souffre. Au début de notre vie spirituelle, nous commencerons par ouvrir les yeux à cette grande vérité. Le résultat sera merveilleux si nous pouvons arriver à faire vivre en nous cette pensée de la présence immédiate et universelle de Dieu. Dieu ne nous atteint pas seulement d'un simple regard, mais il commande et dirige tout ce que nous faisons. C'est lui qui nous donne de vouloir aussi bien que de réaliser. S'il n'était pas présent en moi, je ne serais pas même capable de remuer le petit doigt. Présence de Dieu, immensité de Dieu. Donc là aussi, méditons. C'est souvent, on le dit aux enfants, Dieu me voit. Rappelez-vous si vous avez fait la miche de pain à vos enfants, vous avez la... Je ne sais plus c'est laquelle, non, ça ne doit pas être la première, je crois la deuxième année, il me semble. Cette figure, justement, pour essayer de faire comprendre la présence de Dieu, on prend l'exemple de la fourmi. La fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire, Dieu la voit. Et c'est vrai. Oui, je m'en souviens, ça m'avait frappé. Bon, ça fait pourtant pas 3 ans. Bien, oui, mais c'est vrai, c'est très simple comme exemple. Et ben oui. Et puis l'enfant, il dit, attention de te voir. Tu peux être tout seul dans ta chambre. Tu peux faire des bêtises en disant, ben, comme ça mes parents ne me voient pas, mais Dieu te voit, ton ange gardien te voit. Donc ça, même nous adultes, si de temps en temps nous pensions que cette présence de Dieu, si nous en étions persuadés, on ferait sans doute beaucoup moins de bêtises. Ensuite, je termine, parce que le temps passe, rapidement, il y a quand même l'unité de Dieu. Dieu est unique, seul à posséder cette existence. Évidemment, Dieu est nécessairement unique suite par suite de sa simplicité. Et vous avez, je voudrais vous citer quand même Bossuet. S'il y avait plus d'un Dieu, il y en aurait une infinité. S'il y en avait une infinité, il n'y en aurait point, car chacun n'étant que ce qu'il est, serait fini. Alors, évidemment, l'unité de Dieu, c'est une suite de sa simplicité infinie. Ensuite, d'autres, bien sûr, la bonté de Dieu aussi, ça, bien sûr, on parle du bon Dieu. C'est la bonté qui est cette disposition de Dieu qui le porte à se répandre et en même temps qui le rend attrayant. Ben, tout être est bon dans la mesure où il est parfait. Pourquoi ? Parce que dans la mesure de sa perfection, il est apte à aimer et à être aimé. Donc la bonté de Dieu est sans limite parce que son être est infini et parfait. Évidemment. Donc il est souverainement aimable parce qu'il possède de quoi combler les aspirations de toute créature. Jamais, on ne pourra jamais épuiser l'amour de Dieu, on ne pourra jamais être assez aimer Dieu, si vous voulez. Dieu peut combler parfaitement les aspirations de la créature. Et vous avez ce magnifique texte dans Isaïe, au chapitre 49, verset 15. Une mère peut-elle oublier son enfant qu'elle a porté dans son sein ? Et quand elle l'oublierait, je ne vous oublierai pas, dit le Seigneur. Bon, bien sûr, je pense que ça, c'est en plus très bien pour vous-même. Hein, des mères de famille, évidemment, on ne peut pas. Une mère, c'est vraiment naturel, ne peut pas oublier un enfant, ce n'est pas possible. Eh bien, elle dit, même si par hasard une mère pouvait oublier son enfant, eh bien, moi, je ne vous oublierai pas, dit le Seigneur. D'autres attributs aussi, justice et miséricorde, par exemple, la justice de Dieu et sa miséricorde. Bon, justice qui consiste à accorder à chacun ce qui lui est dû, donc Dieu ne doit rien à personne, donc il ne peut pas être injuste. Oh, Dieu, c'est injuste, il m'a donné ça, il a donné ça à lui et pas ça à moi. Dieu ne doit rien à personne, il est parfaitement juste. Pourquoi un tel reçoit plus que d'autres ? Pourquoi l'une ou l'autre soit ça et lui pas. On n'en sait rien. Ça, c'est Dieu est libre de donner les dons à qui il veut. Il n'y a pas d'injustice en ce sens-là. La miséricorde est en Dieu inséparable de la justice. Elle est la forme la plus délicate. La miséricorde est une bonté qui s'adresse aux malheureux et plus spécialement encore aux ingrats, aux coupables. Elle procède de l'amour du bien. Elle est l'attribut de Dieu qui manifeste le mieux la bonté et la puissance divine. Chez nous, la pitié est souvent stérile et mêlée de la crainte égoïste des maux que nous déplorons chez autrui. Dieu a mieux à faire que de s'attrister de nos souffrances. Il les guérit, il tire le bien du mal et la justice trouve dans la miséricorde son achèvement. Voilà aussi justice, miséricorde de Dieu. Dieu est vérité, etc. Donc vous avez beaucoup d'autres attributs perfection divine. Donc, je ne peux pas toutes les dire. Alors, essayez tout simplement, en conclusion, eh bien, d'avoir cette connaissance, acquérir cette connaissance affectueuse de Dieu. Connaissance affectueuse de Dieu. Bien sûr, cette connaissance doit se transformer en amour de Dieu. Et pour cela, comment faire ? Eh bien, trois moyens. D'abord, l'étude pieuse des mystères divins, des dogmes chrétiens. Ne vous contentez pas du catéchisme que vous avez reçu jusqu'à 10 ans ou 11 ans. Ou peut-être un peu plus, non, sachez relire, vous former, donc lire des livres de lecture spirituelle. Bon, bien sûr, ici, vous avez le choix, ou demander conseil, si vous ne savez pas, mais approfondissez en tout cas l'étude des dogmes chrétiens. Comme je reviens à ce que je disais au début, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous ne le connaissez pas. Ensuite, un autre moyen. Ça va être ce qu'on appelle la méditation, l'oraison. Bon, vous avez commencé ce matin. Pendant cette retraite, on l'a fait avec vous pour vous guider. Bon, après, là aussi, vous pouvez demander des conseils, mais c'est bien de méditer, par exemple, sur ce qu'on vient de dire, sur les attributs divins, celui qui vous frappe le plus. Et puis, troisième moyen pour acquérir cette connaissance affectueuse de Dieu, c'est comme j'en ai parlé, c'est l'habitude de voir Dieu en toutes choses. L'exercice de la présence de Dieu. Dieu me voit. Toujours se souvenir, Dieu me voit. Donc en pratique, pour cela, eh bien, on peut utiliser les créatures pour remonter à Dieu. J'en ai parlé, un beau paysage qui peut nous faire remonter à Dieu. Se rappeler aussi que Dieu est proche, comme dit un psaume, Dieu est proche de ceux qui l'invoquent. Je crois que c'est psaume 144. Dieu est plus proche de ceux qui l'invoquent. Donc, par des petites oraisons, ce qu'on appelle des petites oraisons que l'on fait à Dieu, des oraisons jaculatoires, eh bien on s'approche de Dieu, on est plus mis en présence de Dieu. Et puis bien sûr, la Sainte Trinité, pensons au dogme de la Sainte Trinité présent en nous par l'état de grâce, mais ça on en reparlera. Et les fruits de cette pratique, si vous voulez, de cette connaissance affectueuse de Dieu, bien sûr, nous fera éviter tout ce qui peut nous détourner de Dieu, évidemment, le péché, va stimuler notre ardeur pour la perfection, comment devenir plus parfait, tout ça sous le regard de Dieu. Et puis un autre fruit qu'il ne faut pas négliger, surtout dans le monde d'aujourd'hui, on aura la joie chrétienne, la joie chrétienne. Pourquoi le monde aujourd'hui est si malheureux malgré des joies superficielles? Parce que précisément elles sont superficielles, ce n'est pas la véritable joie. Parce qu'ils ont méprisé, se sont détournés de Dieu. Pourquoi on déplore tant de suicides aujourd'hui? Malheureusement parce que les gens ne trouvent pas la véritable source de joie qui se trouve en Dieu. Et donc en conclusion, c'est cette page de Don Marmion. Donc ça c'est dans le livre « Christ idéal du moine », au début, page 15, mais qui dit « En trouvant Dieu, nous posséderons aussi la joie. Nous sommes faits pour le bonheur, pour être heureux. Notre cœur a une capacité d'infini, mais il n'y a que Dieu seul qui puisse nous rassasier parfaitement. C'est pour vous, Seigneur, que vous nous avez créés, et notre cœur vit dans le trouble jusqu'au jour où il trouve en vous son repos. » Ça, c'est saint Augustin. Au début du livre de ses confessions. C'est pourquoi quand nous cherchons quelque chose en dehors de Dieu ou de sa volonté, nous ne trouvons pas le bonheur stable et parfait. D'autres âmes ne goûtent pas cette allégresse. Au fond et souvent à la surface, ces âmes sont troublées, inquiètes, malheureuses. D'où vient cette différence? C'est que les unes cherchent Dieu en toutes choses et ne cherchant que lui, elles le trouvent partout et avec lui le souverain bien et l'immuable félicité. Les autres, ou s'attachent à la créature, ou se recherchent elles-mêmes, par égoïsme, amour propre, légèreté, mais aussi, est-ce elles-mêmes qu'elles trouvent, elles-mêmes, c'est-à-dire le néant. Et cette rencontre ne peut finalement les contenter, parce que l'âme créée pour Dieu a soif du bien parfait. De quoi êtes-vous rempli? Où se tournent naturellement vos pensées? C'est là votre trésor, c'est là qu'est votre cœur. Si c'est Dieu, vous êtes heureux. Si c'est quelque chose de mortel, que la rouille, que la corruption, que la mortalité consume sans cesse, votre trésor vous échappe et votre cœur demeure pauvre et épuisé. Voilà, donc demandons bien toujours cette recherche du bon Dieu. Voilà, habituellement, après les instructions, nous allons à la chapelle pour méditer, au moins vous donner quelques idées, rappeler, résumer un peu l'instruction, pour vous permettre de méditer ensuite tranquillement. Là, aujourd'hui, évidemment, nous ne le faisons pas, parce que dans un quart d'heure, donc, il y a la messe, la Sainte Messe. Donc, néanmoins, bon, si vous allez tout de suite à la chapelle avant la messe, vous pouvez déjà réfléchir à tout ce qu'on vient de dire. Autrement, dans les temps libres, vous pourrez tout à fait, seul à la chapelle, par exemple, ou dans votre chambre, revenir méditer un petit peu sur ce qui vient d'être dit. Donc voilà, dans 10 minutes va sonner la cloche pour la messe de 10h15.